Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 2 décembre 2012. Et oui, il faut quand même s'y mettre, le temps de faire tous ces petits réglages techniques. Nous y voilà avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex pour aborder en premier lieu l'actualité internationale avec une spécificité du jour ou du week-end qui est le fait qu'il y ait à des endroits bien différents du monde trois mouvements populaires ou pas trop populaires, mais enfin trois mouvements de manifestants dans la rue, dans les capitales, visant à renverser un gouvernement ou du moins à bousculer un certain nombre de choses. Alors c'est bien sûr l'Ukraine, c'est la Thaïlande et puis c'est l'Égypte aussi où il y a des manifestations. Voilà, on va peut-être commencer, ben oui, par l'Ukraine, pourquoi pas, quoi. Alors, l'Ukraine, à l'heure qu'il est, ben, les manifestants sont dans la rue. Le bâtiment de la présidence est bloqué, l'immeuble du gouvernement est bloqué, et l'hôtel de ville, depuis 24 heures, est occupé et sert de base pour les manifestants. Que s'est-il passé? L'Ukraine a connu il y a 9 ans déjà cette révolution orange, vous en soutenez encore, souvenez encore, et puis il y a quelques années de la répression. Et Yanukovych, dirigeant, on va dire pro-russe, quoi, a néanmoins négocié depuis 5 ans avec l'Union européenne, ce qui fait d'ailleurs que pendant ces 5 années, l'Union européenne a financé quelques milliards de soutien et de mise à niveau du pays pour une intégration. Et au moment de passer à l'intégration, que dit Poutine? Il dit « Ah, si vous faites ça, moi, je coupe le robinet du gaz ». Et Yanukovych, donc, dans ces conditions, pense que l'Ukraine est bien mieux de rester attachée à la Russie qu'à l'Union européenne. C'est pas Poutine qui va lui donner tort. Côté population, il y a un certain nombre de gens, c'est pas sûr que ce soit la majorité d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une grande partie de la population ukrainienne qui reste très attachée à la Russie, mais il y a un certain nombre de gens qui avaient rêvé d'Europe, et comme disent certains dirigeants politiques occidentaux, il y en a plus beaucoup aujourd'hui que l'Europe fait rêver, et là c'était le cas. Et donc ils l'ont très saumâtre et ils pensent que c'est le moment de mettre une pression maximum pour obtenir ce rattachement à l'Europe et du même coup renverser le pouvoir en place qui s'est jamais bien sûr singularisé par sa pratique démocratique et par ses respects des droits de l'homme. On parle de grève générale, mais ce n'est pas sûr qu'elle soit si générale que ça. En tous les cas, il y a de l'agitation dans la rue et peut-être de la violence puisque c'est par les troupes, puisque ça a déjà un petit peu commencé. Si le pouvoir décide de passer en force, il peut y avoir un massacre par les militaires. Robert, tu as peut-être quelques compléments à donner sur cette situation.
Oui, sur le dossier ukrainien, déjà sur les événements de ces derniers jours, il y a des choses pas très claires. On a vu apparaître un parti d'extrême droite. Bon, c'est un parti nationaliste, donc très tourné vers son désir d'Europe, et qui a envoyé à l'hôpital plusieurs dizaines, on parle d'une centaine de blessés chez les policiers, ce qui est rarissime. C'est plutôt l'inverse en général qui se passe. Bon, c'est effectivement quelque chose qui montre que cette opposition pro-européenne est composite. Elle comprend effectivement des libéraux sincèrement convaincus que l'Europe leur apportera quelque chose, et puis d'autres qui effectivement veulent surtout effectivement régler un vieux compte qui remonte à plusieurs décennies. Il faut rappeler que l'Ukraine a été dans plusieurs étapes de sa vie, a eu des périodes très sombres, y compris pendant la dernière guerre où elle était en grande partie du côté des nazis. Et ça, il semble qu'il y ait une résurgence de ces courants-là. Bon, ça c'est pour les médias. Sinon, effectivement, comme tu l'as dit, l'histoire, eh bien, c'est actuellement qu'il y a une compétition commerciale et sur ce qui est le plus important pour tous ces pays de la région, qui sont pour la plupart pauvres, c'est l'approvisionnement en matière énergétique, le pétrole et le gaz, et que de ce point de vue-là, eh bien c'est on va dire, c'est la Russie qui fait les meilleures offres, même si certains voient derrière cette offre des menaces. Eh bien, c'est des menaces commerciales. Si vous restez pas, si vous voulez pas entrer dans l'union douanière telle que nous, Russes, nous l'avons déjà proposé à un certain nombre de pays qui l'ont accepté, comme la Biélorussie, le Kazakhstan, ou d'autres pays à qui nous la proposons, comme l'Arménie, qui est sur le point de l'accepter, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, etc. Donc, si vous n'en voulez pas, si vous préférez le partenariat oriental, le partenariat oriental, c'est ce que l'Union européenne a créé pour tous ces pays-là, pour les faire entrer progressivement sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, dans l'Union européenne. Mais disent les gens au pouvoir actuellement à Kiev, disent oui, mais l'Europe, bon, fait quelques petites aides, surtout pour améliorer le fonctionnement de l'État de droit, mais elle n'apporte aucune proposition concernant le grand chambardement sur le plan industriel, parce qu'ils ont bien compris que le jour où les Ukrainiens passeront en Europe, eh bien, les industries vont fermer, des milliers et des milliers de chômeurs au titre de la modernisation et de la reconversion et de la compétitivité vont peupler ce qui seront chez eux les pôles pour emploi. Donc c'est sur ce fond-là que se posent les problèmes d'aujourd'hui, du côté des tenants de l'arrimage de l'Ukraine à l'Union européenne, eh bien la figure de proue Tymoshenko, qui effectivement, bon, c'est une prisonnière politique à Kiev, et effectivement. Mais l'Union européenne, si les Russes ont fait des erreurs, et ils en ont fait, notamment en donnant cette impression de dire bon non, c'est vous, c'est nous, on a eu la même impression d'erreur, plus qu'une impression, une erreur grossière faite par les Occidentaux, l'Union européenne, en disant que vous puissiez entrer, c'est-à-dire à Vilnius, et signer l'accord qui prépare, parce que c'est pas l'entrée, hein, qui prépare les démarches menant à l'entrée dans l'Union européenne, eh bien, il faut qu'immédiatement vous transfériez Tymoshenko dans une prison de notre côté. Alors, évidemment, là, on comprend bien que cet ultimatum, n'importe quel gouvernement peut facilement l'utiliser auprès de son peuple aussi pour dire, eh bien, on n'accepte pas, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles une Ukraine très divisée, pratiquement coupée en deux, qui actuellement était en grande difficulté dans cette bataille quasi capitalistique entre la Russie, puissance de l'Est, et puis l'Union européenne, puissance de l'Ouest.
Alors, deuxième conflit qui se déroule dans la rue à l'heure qu'il est, c'est à Bangkok, en Thaïlande, donc, avec des manifestants, où là aussi la situation politiquement est loin d'être claire, des chemises rouges contre des chemises jaunes, et on a l'impression que, en fait, les chemises jaunes en question, c'est pas vraiment un mouvement social de prolétaires, c'est simplement la bourgeoisie qui veut chasser la monarchie. Et quand je dis la bourgeoisie, c'est peut-être aller vite en besogne, puisque le proche du prince héritier Taksim Shinawad qui est en exil pourrait être à l'origine de toute l'organisation de ce mouvement et aspirer donc à reprendre le pouvoir. Thaïlande, pays de rêve pour les touristes français, enfin certains qui y vont, nous le disent, surtout quand ils ont le sens de profiter de prix extrêmement bas et des sourires forcés ou imposés des Thaïlandais à l'égard des touristes. Toujours est-il que 7 ans plus tôt, il y avait un coup d'état militaire, 3 ans avant, il y avait une répression sanglante. Et aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de monde qui s'oppose, mais en même temps, les défenseurs de la première ministre, Inuk Shinautra, sont aussi dans la rue, ce sont les chemises rouges. Donc un mouvement dont on ne voit pas bien les tenants et les aboutissants sociaux, on a l'impression que des requins de pouvoir s'affrontent par population interposée qu'ils ont mis chacun de leur côté. Difficile de voir à l'heure qu'il est comment ça va finir. Est-ce que là aussi il y aura de nouveau des violences contre les opposants ou est-ce qu'ils vont emporter le morceau et pousser cette première ministre à la démission? Donc à suivre dans les heures par heure, dans les heures qui viennent.
Oui, le seul point qu'on peut ajouter à ce que tu as dit qui est complet, c'est que rappeler que Bangkok c'est dans l'orbite états-unienne, c'est un peu la chasse gardée, la Thaïlande, la chasse gardée depuis des décennies. Bon, ça s'impose peut-être moins parce que les tensions dans la région sont moins fortes, on n'est plus dans la guerre froide, mais la Thaïlande, c'était effectivement pour les États-Unis quelque chose d'important. Alors on ne sait pas si les Américains, Obama, va être amené à, non pas à intervenir, bien sûr, mais à faire pression pour que, peut-être qu'on trouve une troisième issue, une troisième solution, c'est-à-dire ni l'actuel gouvernement, ni le retour du précédent accusé de corruption, mais une troisième solution. Mais on ne sait pas si les Américains sont en position de pouvoir favoriser l'émergence de cette troisième solution.
Voilà, puis on dira un mot de l'Égypte aussi, où les choses ne se passent pas très bien, puisque il y a à la fois une répression qui s'organise contre les islamistes et contre les révolutionnaires. Entre autres, on a fait voter une loi contre les assez désopilantes, si l'on peut dire. Il faut une autorisation pour manifester maintenant. Et donc, il y a comme ça un deuxième front pour les militaires au pouvoir, avec d'un côté les islamistes qui revendiquent toujours l'éviction de Morsi, et puis contre l'éviction de Morsi, et puis d'autre part les révolutionnaires qui s'estiment volés de la révolution par le pouvoir en place. Et il y a eu cet épisode avec Ahmed Maher, dirigeant donc des tendances révolutionnaires, qui s'est livré à la police suite à un mandat d'arrêt, et en espérant prouver par là qu'il était de bonne foi. On ne sait pas ce qu'il est devenu de lui à l'heure qu'il est.
Alors, je crois qu'il a été libéré. Il a été libéré.
Alors la nouvelle constitution, les dirigeants...
Mais peut-être inculpé, libéré, mais inculpé sans doute. Oui.
Les dirigeants ne se laissent pas arrêter par si peu, puisqu'ils ont proposé la nouvelle constitution, malgré tout ce qui se passe dans le pays, avec des articles un peu désopilants aussi, certains incluant le respect des droits de l'homme. Quand on sait comment la police fonctionne, il va y avoir du travail, quoi. Voilà, peut-être tu veux en dire plus.
Non, je crois que, hélas, c'était un triste dossier, ce dossier égyptien, on est loin des printemps arabes.
Autre sujet, j'en ai quelques-uns, mais tu as peut-être envie d'en évoquer un tout de suite.
On peut rester dans la région, on va dire, américaine, au sens large du terme, en signalant qu'au Honduras, la victoire de la droite est contestée par le candidat de gauche. 36,7%, 28,8%. Bon, finalement, il n'y avait qu'un tour. Bon, nous-mêmes, enfin moi-même, je me suis laissé surprendre la semaine dernière en pensant que il y avait un deuxième tour, mais en fait, il n'y a pas de deuxième tour. Donc, c'est celui, le candidat qui arrive, ou la candidate qui arrive en tête, qui est élu président ou président de la République. Alors, résultat contesté par le parti d'opposition Libéré, qui dénonce des fraudes massives avec des disparitions de votes un peu partout. Et ce qui est important, c'est qu'il y avait des observateurs internationaux et déjà certains se sont prononcés. Parmi ceux-ci, une figure assez légendaire de la défense de tout ce qui est le droit, au sens humanitaire du terme, c'est-à-dire l'Espagnol Baltasar Garzón, qui était là-bas en tant qu'invité de la Fédération internationale des droits de l'homme et qui dénonce effectivement des élections truquées, faussées, et qui lui aussi dit incontestablement un recomptage s'impose. Et puis si l'Europe dans son ensemble a dit oui, on est assez content, l'Union européenne tout de suite a dit oui, c'est pas mal, on reconnaît le nouveau président, sauf il y a un pays qui fait de la résistance, et c'est l'Autriche. L'Autriche qui dit, enfin les représentants autrichiens qui étaient chez les observateurs dit non, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout transparentes et ce résultat ne peut pas être entériné tel quel. Voilà pour ce dossier Honduras, hélas, depuis le coup d'État d'il y a quatre ans, continue d'être dans une situation assez difficile.
Je reviens un peu vers le Moyen-Orient, donc il faut dire un mot de la Syrie quand même si hélas la situation est stable et constante, c'est-à-dire que la guerre continue, qu'elle fait des morts, des obus ont été envoyés sur une mosquée du centre-ville d'Hamas, et l'armée de Bachar n'est pas défaite et il semble qu'elle gagne du terrain à un certain nombre d'endroits au nord de Damas. Ils cherchent à couper la route vers Alep aux rebelles qui par ailleurs aussi défendent des positions et les tiennent. Donc sur le terrain, tout ça fait des morts, et ça fait même des morts au Liban, puisqu'il y a des affrontements dans le nord Liban à Tripoli qui, ces derniers jours, ont fait 10 morts et une cinquantaine de blessés, affrontements entre Alaouites pro-Assad et puis sunnites anti-gouvernement. Donc la guerre, comme on l'a vu depuis un certain temps, s'exporte un peu au Liban, en espérant qu'elle ne prendra pas là une ampleur de guerre civile comme le pays en a que trop connu.
Oui, et avec cette situation qui dans l'opposition armée, où la rupture est totale entre les courants islamistes intransigeants, al-Nosra, qui a pratiquement marginalisé l'armée libre syrienne, et qui essaye de l'éliminer et d'être seul sur le terrain militaire, et donc éventuellement pouvoir avoir les coudées franches pour refuser toute négociation, toute discussion à Genève ou ailleurs avec les représentants, les actuels détenteurs du pouvoir en Syrie.
Alors, on va faire un petit tour en Afrique aussi, puisque ça passe des choses dans plusieurs pays. Ben, au Mali, ça c'est tout frais. Il y a eu des manifestations au nord du Mali, du MLNA, qui toujours réclame un peu son autonomie, son indépendance. Des militaires maliens ont tiré et fait des blessés graves. Du coup, les Touaregs du MLNA menacent de suspendre le cessez-le-feu et de reprendre les hostilités. Donc on voit que c'est loin d'être stabilisé. Pendant ce temps-là, en RCA aussi, les militaires français arrivent tout doucement, puisqu'ils étaient 400, ils seront maintenant 600, il y en a 200 qui arrive pour tenir un pays tout entier, on peut penser que c'est largement insuffisant. On parle d'agir, mais pour le moment, on attend surtout. Et puis le fonds spécial demandé aller au niveau de l'ONU pour équiper et soutenir cette remise en ordre du pays et ce maintien de l'ordre surtout, pose quelques problèmes à l'ONU puisque les Américains ne veulent pas du tout s'engager là-dedans et ne voudraient même pas que l'ONU paye pour cette action-là en Afrique. Voilà,
tu parlais de fonds, et bien je vais évoquer l'adoption du fonds européen d'aide aux plus démunis. Enfin, il a été voté sous la pression du Parlement européen, et finalement la Commission Barroso a fini par l'accepter, et la présidence de l'Union européenne aussi. Donc ce fonds européen d'aide aux plus démunis fait suite à la coupure des aides en matière alimentaire apportées à partir d'une action en justice devant la Cour européenne faite par les Allemands et plusieurs autres pays qui estimaient que c'était pas conforme, cette aide que les pays apportaient dans ce cadre-là n'était pas conforme aux directives européennes. Et donc, on se souvient qu'il y a trois ans, ça avait commencé il y a deux ans, trois ans, les fonds avaient été supprimés pour une grande partie d'entre eux. Donc, c'est pas des sommes astronomiques, c'est 3,5 milliards d'euros, mais sur 7 ans. Ça veut dire à peu près, la division est facile à faire, c'est 1,5 milliard d'euros par an qui va être débloqué par l'Europe au profit des ONG qui contribuent à l'aide alimentaire partout où c'est nécessaire. Et on estime qu'actuellement, il y a 18 millions d'Européens qui sont dans cette situation de nécessité.
Voilà, je voulais dire un mot aussi de la Croatie. On revient vers l'Europe avec les Croates qui sont en train de faire le grand écart puisqu'ils sont entrés dans l'Union européenne récemment, vous le savez. Personne ne leur demandait rien, mais des lobbies de droite, réactionnaire, on va dire, et puis l'Église ont mobilisé la population pour demander un référendum. Selon introduire dans la Constitution le fait que le mariage homosexuel ne pourrait jamais être pratiqué dans le pays. C'est-à-dire que, dit autrement, que le mariage ne peut se prévoir qu'entre un homme et une femme. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Eh bien, le référendum a donné le résultat qu'à 65%, donc les Croates ont voté pour qu'il n'y ait jamais de mariage homosexuel dans le pays. Et je dis c'est le grand écart parce que là, ça, c'est pas le seul cas. Il y a des cas en Hongrie aussi où ça pose des gros problèmes avec l'Union européenne, puisqu'ayant voté ça, ils sont en porte-à-faux par rapport aux pratiques et aux décisions légales dans l'Union européenne. Je ne sais pas comment nos brillants politiques, commissaires et autres vont s'en sortir, peut-être en regardant ailleurs et en laissant courir, mais en attendant, ça a été voté comme ça. Tu avais une autre information, Robert ?
Non, je crois que pour ce qui me concernait, je n'avais rien d'autre.
Une petite pause musicale. On va le faire avec André Bonhomme qui chante, pas cette semaine, mais comme c'est mardi prochain, le 10 décembre. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Vous savez, il y a le 8 décembre à Lyon qui dure le 7, le 8, le 9, le 10. Donc, tous les théâtreux et autres musicaux se sont mis un peu en retrait. Mais le mardi 10 décembre, donc dans une semaine comme demain, à 20h30 à Sous le Caillou, comme son nom l'indique, c'est 22 rue d'Austerlitz dans le 4e, sur le plateau. André Bonhomme chante avec Laure Van Reux au violon alto et Florent Jouffroy aux percussions, un répertoire qui sera tout à fait différent de celui de sa dernière prestation, avec des nouvelles chansons. Si vous voulez réserver, c'est le 04 72 44 34 48, entrée 10 et 13 euros. On l'écoute dans une chanson. André Bonhomme, c'est un peu comme Brassens, vous voyez. Ses anciennes chansons ou les nouvelles, eh ben, elles ne vieillissent pas. Eh bien, on va écouter une très agréable ancienne chanson. Moi, je me la joue.
On se la joue tous quelque chose, qui défenseur de la bonne cause, qui généreux voleur ou pingre, on a tous un petit violon dingre. Moi je me la joue artiste, main sur le cœur et regard triste, des sanglots longs, plein mes violons. Chacun son rôle sur la scène, de la tragédie comédie humaine. Certains se la jouent dynamique, muscle de fer aéropique. D'autres se la jouent intellect, sûrement moins cher et plus sélect. Moi je me la joue artiste, main sur le cœur et regard triste, des sanglots longs, plein mes violons. Chacun son rôle sur la scène, de la tragédie comédie humaine. Certains se la jouent directeur, en toute chose décideur. D'autres se la jouent débonnaire, papa tranquille ou fonctionnaire. Moi je me la joue artiste, main sur le cœur et regard triste, des sanglots longs, plein mes violons. Chacun son rôle sur la scène, de la tragédie comédie humaine. En amour certains se la jouent, provocateurs jouent contre joue. D'autres se la jouent grand timide, maladroit coincé d'un lit vide. Moi je me la joue artiste, main sur le cœur et regard triste, des sanglots longs, plein mes violons. Chacun son rôle sur la scène, de la tragédie comédie humaine. Je me la joue un peu, beaucoup, c'est ma façon d'être dans le coup. Bien campé dans mon personnage, je m'impose à mon entourage. Moi je me la joue artiste, main sur le cœur et regard triste, des sanglots longs, plein mes violons. Chacun son rôle sur la scène, de la tragédie comédie humaine. De la tragédie comédie humaine.
André Bonhomme, moi je me la joue, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Nous, on se la joue info et on arrive à la rubrique nationale avec peut-être un tour d'horizon de des événements politiques et sociaux de ces jours derniers. Le Front de Gauche, suivant les lunettes avec lesquelles on le regarde, ils étaient 7000 ou 100000. Je ne sais pas si tu as une idée plus précise, mais on atteint rarement de tels écarts quand même.
Oui. Bon, on va faire comme on fait d'habitude. On additionne les deux chiffres, on divise par deux. Ça fait 50 et quelques mille. C'est peut-être effectivement plus près de la vérité. Mais l'important, effectivement, c'est de réussir en plein moment où tous les appareils du haut en bas de la hiérarchie municipale sont en train de concocter, de préparer déjà les élections. Et donc la mobilisation pour cette manifestation n'était pas évidente. Bon, ben, même si elle a réuni, comme le dit l'humanité, plusieurs dizaines de milliers de personnes, on peut considérer que c'est quand même un succès. Et le thème, effectivement, est tout à fait dans l'actualité, puisqu'il correspond au moment où le gouvernement dit on va remettre toute notre fiscalité à plat, on va tout reprendre, on va tout réétudier. Eh bien, chiche, révolution fiscale. On demandait les marcheurs hier qui sont allés jusqu'aux portes du ministère des Finances, Bercy, dans le 12e arrondissement, pour demander que cette révolution fiscale, ça soit effectivement la fin de l'injustice fiscale et sociale par des mesures concrètes, taxation du capital. On sait que le capital le produit du travail, eh bien, il va au niveau de la situation, il va au capital de plus en plus, et le travail de moins en moins. C'est-à-dire que, par exemple, dans les années 60-80, la part annuelle des profits produits par le travail, eh bien, était de 60%, et il est tombé pratiquement à 15% aujourd'hui, à 10%. Donc, je veux dire, tout le produit du travail, eh bien, il va dans la poche des actionnaires. Donc, c'est ça qui a été dénoncé. Il faut taxer le capital et non pas le travail. Il faut annuler ces augmentations de TVA qui vont intervenir dès le 1er janvier prochain et qui vont pénaliser surtout les salariés et les gens qui, effectivement, achètent des produits, quels qu'ils soient, et qui, pour la plupart, ça va faire augmenter le coût de ce que ça représente. Voilà, c'était le sens de cette manifestation parisienne auquel il y avait effectivement le Front de Gauche, à l'intérieur duquel il y avait ce regroupement qui s'appelle Ensemble, mouvement pour une alternative de gauche écologique et solidaire, et qui regroupera à terme la phase, la gauche anticapitaliste pour partie, la gauche anticapitaliste en totalité, la gauche unitaire en partie, convergence et alternative et les alternatifs. Bon, tout ça était donc dans la manifestation, ainsi que lutte ouvrière qui s'est affichée en tête de la manifestation, chose assez rare et assez nouveau, alors que l'UNPA est également la manifestation, mais il s'est calé en fin de manifestation, l'UNPA. Voilà, c'était pour l'anecdote de cette manifestation. Je signale que justement, j'évoquais les pourcentages, le coût du capital, ce qui peut être fait en termes de mobilisation pour effectivement développer, lutter contre l'austérité. Je recommande la lecture et même la conservation des pages 4-5 de l'Humanité, où il y a des tableaux qui sont très explicites, très clairs. C'est des tableaux, en plus, c'est pas des tableaux fabriqués par les journalistes de l'Humanité, c'est des tableaux qui officiellement décrivent, le transfert du produit du travail de chez les travailleurs vers les actionnaires.
Alors on peut peut-être le développer un peu en particulier.
Le dimanche 1er décembre, qui a dit Mélenchon, sera suivi d'autres manifestations. Bon, Mélenchon, c'est Mélenchon, mais la manifestation était donc beaucoup plus large que. Mais on personnalise toujours, et évidemment, ça, c'est les conséquences du système politique institutionnel français.
On peut peut-être développer un peu, tu parlais des tableaux, il y en a un que je trouve qui mérite d'être cité, c'est l'Humanité nous montre comment 160 milliards sont récupérables immédiatement, alors que c'est peut-être pas la peine de gratter sur les petits revenus et les retraites et autres. Il est estimé que le coût de l'évasion fiscale est de 60 milliards chaque année, donc ça, c'est récupérable si on s'en donne les moyens. 42 milliards, c'est le manque à gagner pour le régime fiscal dû aux embrouilles des sociétés filiales qu'on met dans les paradis fiscaux pour échapper à l'imposition des revenus constitués en France. 27,6 milliards, c'est le coût pour le budget de l'État des exonérations de charges sur les bas salaires que rien ne justifie et qui permettent donc aux patrons de faire du bénéfice sur les travailleurs les plus mal payés. 20 milliards, c'est la mise en place du fameux crédit d'impôt compétitivité emploi. En gros, 20 milliards qu'on bourre dans la poche des patrons qui n'en ont pas besoin et qu'on va essayer de récupérer dans la poche des petits salariés avec l'augmentation de la TVA. 7 milliards, c'est une niche coupée qui n'a pas été abrogée, mise en place sous Sarkozy, qui divise par 4 la taxation des plus-values réalisées par les entreprises qui réalisent de nouvelles plus-values en vendant leurs titres. Alors, s'il y en a qui pourraient être récupérés, c'est bien ceux-là quand même. 6 milliards, c'est le montant du crédit impôt recherche qui profite aux grands groupes, et comme le dit Luma, qui souvent ne font même plus la recherche en France, puisque Sanofi et d'autres exportent leurs sites de recherche. Tout ça fait 160 milliards qu'on pourrait aisément récupérer sans aller chercher... même sous le sabot des chevaux, enfin encore que l'histoire du sabot des chevaux, on pourra en parler, c'est pas seulement une question de TVA, c'est une question d'harmonisation européenne, donc des recettes complémentaires. Voilà, qu'est-ce que... Mais il y avait une autre manif, il y avait de la concurrence samedi, puisque SOS Racisme manifestait aussi samedi après-midi. Oui, c'était le Front de Gauche, c'était hier ou samedi?
Le Front de Gauche, c'était dimanche.
C'est dimanche, ah non, il n'y avait pas de concurrence.
Des manifestations un peu dans plusieurs villes de France, oui. Et dont Paris. Oui.
Donc une dizaine de milliers de personnes quand même, avec des collectifs contre les discriminations, CGT, CFTT, UNSA et même le PS étaient représentés, c'est bien normal. Harlem Désir, il connaît SOS Racisme. Voilà, tu voulais...
On peut évoquer peut-être, puisqu'on reste dans le social, politique sociale, eh bien le nouveau rendez-vous de Carex en Bretagne, des bonnets rouges. Alors ça le mouvement se décante tout en restant relativement confus au niveau de sa composition, puisque déjà le MEDEF n'y participait pas. Alors ça c'est pour la partie capitalistique, ni EFO. Alors EFO c'est pour des raisons assez incompréhensibles, simplement parce que EFO estime que le mouvement est trop bretonnant. Bon, pas forcément tort, mais de là à ne pas y participer alors qu'il y était avant. Bon. Sinon, eh bien, c'est un peu de tout. Chômeurs, ouvriers, il y en avait, des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des chefs de petites entreprises. Alors tout ça sous la houlette de Christian Troadec, le maire de Carex, qui se débrouille très bien. Bon, il est pas. Il est effectivement. Il exprime des choses qui sont vraies là-bas. Faut pas effectivement caricaturer. Il y avait aussi des gens politiques d'ailleurs qu'en d'autres temps on a pu côtoyer. L'UDB, l'Union démocratique bretonne, qui était un parti socialiste en Bretagne, qui l'est toujours, très petit. Le syndicat libre de Bretagne et puis le parti breton aussi. Bon, donc il y a effectivement tout cet aspect d'une Bretagne qui n'est pas une Bretagne forcément conservatrice, qui est plutôt une Bretagne qui rêve pour certains ils disent pas une république bretonne parce que ça ferait sans doute trop jaser, d'une région ou d'un État breton dans une nouvelle communauté européenne. Alors évidemment, ils ne sont pas les seuls à avoir cette ambition. On entend ça aussi en Corse, on entend ça peut-être un petit peu moins dans certains coins ici, dans l'Occitanie. Voilà, donc il y a de tout dans ce mouvement, mais il y a certainement des choses vraies, même si effectivement, il est loin d'apporter une réponse à l'austérité. Et il a raison sans doute de dire que le pacte d'avenir, qui doit être présenté dans 2-3 jours à Paris par le gouvernement, n'est sans doute pas la bonne réponse actuelle.
Ouais, il y a peut-être même quelques UMP aussi. Hein, pour.
Il semble que là, ils avaient fait en sorte qu'on les voit. S'il y en avait, ils étaient assez cachés.
Ils faisaient foule.
On les a peut-être cachés, oui.
Un autre mouvement dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existe et qui s'insiste, on va dire, c'est les frontaliers. Bon, ils sont quand même à peu près une centaine de milliers, hein, entre Annemasse et Belfort, là, à passer la frontière tous les matins pour aller bosser, ce qui leur fait des grosses journées et des conditions de travail dures, puisque déjà les Suisses font plutôt 40 heures ou 48 heures que 32, et en plus ils ont des heures de trajet. Mais moyennant quoi, ils gagnent deux fois plus que s'ils faisaient le même boulot en France, à peu près. Donc c'est ce qui les motive beaucoup, ces frontaliers. Et ils vivent très mal que la solidarité nationale leur demande d'avoir leur sécu qui s'intègre dans le modèle national. Parce qu'ils veulent bien bosser en Suisse, mais ils habitent en France, bien sûr. Le kilo de viande est moins cher, le mètre carré de construction aussi. Donc ils bénéficient de tous les services publics français. Et il a été décidé par le gouvernement que ce système dérogatoire où ils prenaient une assurance individuelle auprès de compagnies privées, bah, ils pourraient toujours prendre des assurances individuelles s'ils voulaient, mais il faudrait qu'ils cotisent à la Sécu comme tout le monde. Et ils se dressent là contre. Bon, ils ont déjà... Là, il est question de barrer les routes. Ils ont déjà fait des manifestations dans toutes les villes frontalières. Ils ont l'intention d'aller au bout pour obtenir gain de cause et conserver leur privilège. Le privilège du salaire double ne leur suffit pas. Il leur en faut d'autres pour s'extraire de la solidarité nationale. Voilà, les Verts, tu nous dis quelques mots des Verts.
Voilà, oui, qui se sont donné une nouvelle présidente ou secrétaire générale, je ne sais pas quel est exactement le titre qu'ils utilisent, et qui s'appelle Emmanuel Cos, la quarantaine, avec un parcours de militante, pas forcément écologiste, c'est ce que d'ailleurs ses opposants lui reprochent, c'est l'écologie dans tout ça, parce que démarrer chez les lycéens de la Fidèle, ensuite dans les mouvements d'aide aux travailleurs immigrés avec le GISTI, ensuite plus longuement encore dans le mouvement de soutien à tous les gens victimes du sida, et puis la lutte contre le développement du sida, où elle, avec ACT UP, où elle a occupé un poste de direction, de présidente d'ACT UP. Bon, tout ça, effectivement, montre que c'est forcément une personne, une femme énergique, et contrairement à ce qu'on laisse entendre, c'est pas une copie simple de Duflo, loin de là, même si effectivement Duflo a tout fait pour que ce soit elle qui soit élue. D'abord, ça montre que chez les Verts, les femmes, on peut le dire, eh bien, c'est peut-être le seul parti en France où les femmes effectivement pèsent autant que les hommes dans tous les plans, que ce soit sur le plan institutionnel ou que ce soit sur le plan d'organisation politique interne. Elle a gagné donc son regroupement avec une autre motion a fait 55% des voix. Ce qu'on dit de gauche, mais bon, est-ce que ceux qui étaient de gauche étaient plus à gauche qu'elle? C'est pas évident quand on connaît le profil d'Emmanuel Cos. Mais enfin, toujours est-il que c'est comme ça qu'ils se sont présentés, que la presse les a homologués. 36% donc pour ce qui serait les opposants de gauche, et 8% pour des gens autour, notamment de ce que représentait Eva Joly, et puis quelques autres qui s'étaient regroupés avec elle. Voilà, c'est la nouvelle composition des rapports de force. La question donc de participation au gouvernement, eh bien, finalement, elle est réglée à travers ce vote majoritaire. Donc, d'autres questions se posent, c'est-à-dire que, par exemple, Emmanuel Cos va insister, va faire pression sur le tourner la page de l'austérité. C'est le grand slogan que les Verts se sont donnés à l'issue de ce congrès. Je reste une phrase encore chez les Verts pour parler de Montreuil, cas de figure, s'il en est, assez important. Bon, Montreuil, ville de plus de 100 000 habitants, qui était gérée par Dominique Voynet, une écologie Europe Les Verts, qui avait pris la place des communistes, d'ailleurs les communistes de l'époque, mais c'était un peu une génération autour de Brard, hein, très, très intéressante, mais qui nécessairement avait vieilli au pouvoir, et qui finalement, c'était un peu logique qu'elle perde ce pouvoir. Bon, Dominique Voynet et les Verts sont arrivés, mais visiblement, ils n'ont pas réussi à faire que... la mayonnaise prenne. Et donc, Voynet déclare forfait pour la suite, c'est-à-dire au municipal de printemps prochain. Il y aura un front de gauche uni avec derrière Patrick Bessac, et donc tout le front de gauche sera là, mais il y aura également en face un candidat du PS, et puis naturellement des candidats à droite, aussi bien UMP que front national.
Ouais, il faut dire qu'il s'est mis un peu tout le monde à dos, ses amis, ses ennemis, ses collègues. Dominique, elle est obligée d'être là et forfait. Hein, elle n'a plus de
oui,
soutien.
Oui, bon, maintenant, on pense que il y a les européennes dans un an. Donc, de même, c'est d'ailleurs vrai pour Pascal Durand, qui était le secrétaire sortant des Verts et qui a dit « Oh, je suis fatigué des intrigues intérieures et tout ça ». Mais en fait, on sait déjà que Pascal Durand sera sur la liste des européennes. Et on peut penser que Dominique Voynet y sera peut-être aussi.
Voilà, il y a une loi qui vient d'être votée, dont il faut qu'on dise un mot quand même, hein, c'est la loi sur la prostitution. Les conditions dans lesquelles elle a été votée sont assez désopilantes. Il devait rester 25 députés dans l'hémicycle. On peut se demander où étaient les autres, à votre avis. Peut-être qu'ils en profitaient pendant que c'était encore possible. Donc c'est voté, une amende de 1500 à 3000 euros pour les hommes qui paieraient des actes sexuels. Alors ce qu'on se demande, c'est comment ils vont pouvoir l'appliquer, parce que est-ce qu'on va verbaliser avant, est-ce qu'on va verbaliser pendant, il faudra mettre quelqu'un au bon endroit, est-ce qu'on va verbaliser après, comment est-ce qu'on va prouver, est-ce qu'un échange de regards suffira à foutre une contravention de 1500 euros. C'est assez inapplicable, mais bon, ça devrait, selon Mme Najat Belkacem, mettre un terme à la prostitution et surtout à l'esclavage sexuel qu'elle constitue majoritairement en France. On n'est pas sûr que la solution soit là. Ça fait polémique entre les expériences dans les pays étrangers. Il est bien difficile de se faire une idée sur ce qu'il en est et de ce moyen. Mais enfin, ça a été voté dans des conditions un peu ubuesques, mais il reste à voir les décrets d'application s'ils seront pris. Cette prostitution qui concerne 30 à 40 000 personnes en France, dont, paraît-il, la moitié serait sous la coupe de réseaux d'exploitation, bien sûr. Voilà, tu avais d'autres infos. Le Monde Diplo, tu m'as dit.
Deux références de lecture et qui sont naturellement aussi des points d'appui pour tout ce qui peut se faire. C'est ce texte qui s'intitule « Ce que la France doit aux Arabes ». En fait, il y en a eu d'autres, et comme il y a eu beaucoup de manifestations plus ou moins intéressantes, des débats plus ou moins intéressants liés aux 30 ans, rappel des 30 ans de la marche des beurs, c'était en 1983. Et ce dont je veux parler, c'est la publication de ce texte par l'Observateur, et sous la plume de Renaud Dely. On trouve ça sur le site, hein, c'est pas dans le journal écrit papier, c'est dans le site. Et effectivement, c'est une démonstration d'un entretien avec l'historien Pascal Blanchard, qui, je lis la phrase, raconte la saga passionnelle de la France arabo-orientale commencée il y a 13 siècles. Donc c'est quelque chose, une page d'histoire extraordinaire et très intéressante sur ce rapport entre la France et les Arabes. Le deuxième texte de référence que je voulais signaler, c'est dans la pub, dans le numéro de décembre du Monde diplomatique. C'est une page centrale dont le titre est « Miracle du dessin, le dessin contre l'amnésie ». Et c'est à propos de la prison Saint-Paul à Lyon, avec des dessins de Ernest Pignon Ernest. Et c'est surtout le rappel aussi de tous ces résistants qui ont perdu la vie pour partie ou dans d'autres occasions, des gens d'opposition qui ont perdu la vie dans le cadre de la prison Saint-Paul, dont on sait qu'elle va disparaître. Et cette page centrale du monde diplomatique est illustrée par un texte qui a été retrouvé, qui n'a pas été retrouvé, mais qui a été écrit par Gérard Mordillat, donc, que vous avez pu entendre sur les antennes de Radio Canu la semaine dernière. Et alors, cette exposition de photos va être visible à Paris. On peut penser, en espérer qu'elle soit également visible à Lyon après, mais pour l'instant, l'exposition Prison, donc Ernest Pignon Ernest, c'est du 16 janvier au 15 mars à la galerie Le Long, rue de Téhéran, à Paris, dans le 8e.
Voilà, bah écoute, je te coupe parce qu'on arrive au bout de ce Canu Info. Encore une ou deux annonces. Bon, comme j'ai dit, il y a toutes les fêtes du 8 décembre. Vous aurez tout loisir de consulter ça sur Internet et ailleurs. Je citerai quand même de demain jusqu'au 6, La Mouette née à l'Astrée, dans la mise en scène de Philippe Forgeau, enfin une adaptation par la Compagnie du Désordre, à 20h30, sauf mercredi à 19h30. Et puis le 8, si vous voulez vous offrir une croisière musicale et illuminatoire par le FDA Quartet qu'on entend actuellement d'ailleurs en train de jouer, c'est gratuit, c'est sur la péniche La Bourgine et Ma Découverte, à prendre face au 9 rue Général Leclerc. Il faut quand même réserver au 04 78 82 07 20. Voilà, ce Canu Info se termine. Il sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pourrez le retrouver aussi sur le site de la radio, sur les blogs des Canu Info. Bonsoir.